rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission qui traite des rivières et des hommes, c'est son nom, qui aura lieu chaque premier samedi du mois, sauf pour cette première, exceptionnellement, puisqu'elle a lieu ce samedi 9 février. Vous nous retrouverez à 9h le samedi matin, le premier de chaque mois. Alors il s'agit d'une émission sur la gestion des milieux aquatiques, la ressource eau, la pêche et le rapport de l'homme à l'eau. Pour ouvrir cette première émission, nous recevons aujourd'hui Jean Thibault, président de l'APPMA des pêcheurs du Hoguier. Bonjour Jean.
Bonjour.
Fabien Caterina, membre actif de l'APPMA, animateur et guide de pêche. Bonjour Fabien.
Bonjour Sophie.
Gilles Rondeau, bénévole, membre actif de l'APPMA. Bonjour Gilles.
Bonjour Sophie.
Et Marcel Guittard, bénévole, membre actif également de l'APPMA. Bonjour Marcel.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, parmi les thématiques que nous allons aborder, nous allons commencer par découvrir ce qu'est l'APPMA avec Jean.
Oui. Bon, ben moi je vais prendre un petit historique d'abord. Je vais parler de AAPP. On était avant, une association agréée de pêche et de pisciculture. L'association a été créée le 15 septembre 1928. On s'appelait les pêcheurs de la vallée du Gué. Ensuite, on est passé AAPPMA en 1992.
Alors Jean, je vous interromps. APPMA, oui. Ça signifie quoi ?
Alors je vais vous le dire aussi. Donc on est une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Ça change un peu la donne parce qu'on peut faire plus de choses. Donc on a fait une fusion sur ça de Saint-Pierre-de-Chartreux, Saint-Laurent-du-Pont et de Miribel-les-Échelles en 2008. Et maintenant on s'appelle les pêcheurs du Hoguier. Voilà pour la présentation.
APPMA, des pêcheurs du Hoguier.
Voilà.
D'accord. 500 adhérents tout de même.
Oui, on a 500 adhérents. Beaucoup de l'extérieur. Quelques-uns de... On a à peu près une cinquantaine, disons, groupés de Saint-Laurent-du-Pont. Mais bon, c'est à vérifier aussi. Voilà, quoi. Beaucoup de jeunes aussi. On est très bien.
Et alors, en ratio homme-femme, Jean, comment ça se passe à l'APPMA ? Combien vous avez de femmes, de représentantes du sexe féminin, en clair ?
Alors ça, je ne peux pas vous le définir exactement. Il faudrait que je reprenne des autres dossiers, mais bon, je ne les ai pas là.
Peut-être pas majoritaire pour l'instant.
Non, ce n'est pas majoritaire encore, non. Non, non.
Avis à la population non. Féminine.
Hein ? Voilà.
D'accord. Alors, APPMA, quelles sont les compétences que vous avez acquises depuis 2006 ?
Ben, depuis 2006, les compétences, elles sont un peu plus sérieuses, quoi, disons, quoi, maintenant, parce que, bon, on défend le milieu aquatique et piscicole aussi. Donc, voilà, quoi.
Alors, comment ça se concrétise, la défense du milieu aquatique et piscicole ? Il y a Marcel qui veut intervenir,
oui,
c'est ça ?
Simplement, je voudrais rajouter l'organisation et la promotion de la pêche de loisirs, ça c'est important.
Ça, oui, c'est quand même, ça fait partie de vos missions, d'accord ?
Le suivi et l'évaluation des actions entreprises. Donc, tout ce que va entreprendre la PMA sera suivi par la Fédération de pêche. Donc, c'est quand même une mission importante à ce niveau-là.
Très bien. Fabien souhaite ajouter peut-être quelque chose ?
Oui, disons que sur l'aspect plus sérieux dont nous parlait Jean, c'est que disons que nous avons des compétences pour vraiment agir sur le territoire dans la protection du milieu aquatique, dans la renaturation des zones qui ont été dégradées, dans la mise en place de réserves, de suivi piscicole, donc basé sur des études et épaulé notamment par la fédération. Donc on va aussi surveiller le domaine dont on a la gestion.
Grâce aux gardes-pêche.
Voilà, grâce à l'équipe de gardes-pêche qui sont des gardes bénévoles et des gardes donc de pêche particuliers volontaires qui peuvent agir que sur notre domaine de pêche. Voilà. Que dire de plus ? On récolte les taxes piscicoles, donc c'est avec l'argent des cartes de pêche, donc de nos adhérents, qui adhèrent à l'association en achetant leur carte de pêche qui leur permet de pratiquer la pêche sur notre domaine qu'on va décider de réinvestir dans le milieu, dans des actions sur le milieu, sur la protection du peuplement piscicole, des rivières, des petits cours d'eau et dans la promotion du loisir et notamment envers la jeune génération pour essayer de sensibiliser un maximum à ce milieu qui nous est cher et qui est important pour l'ensemble des habitants riverains des rivières.
Alors, on parle des habitants riverains et justement, dans vos missions, vous avez aussi la négociation des baux de pêche. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, l'un ou l'autre, Jean ou Fabien ?
Oui, le bail de pêche, c'est une allocation qui nous est donné par le propriétaire riverain, puisqu'il est propriétaire donc des berges de la rivière.
Jusqu'au milieu de la rivière.
Voilà, jusqu'au milieu du lit de la rivière. L'idée, c'est que pour surveiller le domaine, pour proposer des parcours de pêche, des projets aussi de protection et de renaturation, il nous faut détenir le bail de pêche pour prétendre à ces actions.
Donc c'est le rôle de la PPMA de négocier ça
Donc c'est le rôle de la PPMA de négocier ça. Ça peut se faire sur accord tacite avec le propriétaire riverain, ça peut être aussi ça peut être à titre gracieux ou à titre onéreux aussi. Faut savoir que c'est de l'ordre de quelques centimes le mètre linéaire, je crois. Voilà.
D'accord. Très bien. Protection des milieux aquatiques et surveillance du domaine en gestion, action d'information et de promotion du loisir pêche, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, d'un point de vue géographique, la gestion justement en Chartreuse, ça va de où à où, Marcel ?
Alors on a un premier secteur qui est le secteur 1 sur le Guémor, c'est notre secteur amont, c'est la zone à truites. C'est un parcours à forte pente, agrémenté de cascades et petits sursauts, gouilles, replats et rapides. La moyenne de dénivelé est importante, ce qui en fait un secteur parfois abrupt et accidenté. C'est un parcours où seule la truite Fario est présente. Faut pas l'oublier.
Alors la truite Fario, Marcel, c'est la reine de nos rivières.
Tout à fait.
C'est le poisson emblématique.
C'est
une rivière première catégorie.
Donc c'est un salmonidé.
Oui.
Qui est là parce que l'eau est pure, elle est oxygénée. Voilà. Donc tant qu'on aura des truites dans nos rivières, tout ira bien.
C'est aussi bien
pour le poisson que pour nous. Voilà. Après, un peu plus bas, donc Véron et Chabot sont eux-mêmes absents. Nous parlons de parcours monospécifiques parce qu'en fait, dans ce parcours-là, il n'y a que des truites. Le secteur est compris entre les sources du Guier, au-dessus de Saint-Pierre-Chartreuse, donc à Perclin.
D'accord.
Et la limite aval de la réserve de Saint-Laurent-du-Pont. Ça, c'est le secteur numéro 1. Secteur numéro 2, donc toujours le Guémor, c'est notre secteur intermédiaire. Zone où la pente est plus faible, mais le profil reste adapté aux seules espèces réophiles. Alors,
réophiles,
qui vit dans les eaux torrentielles. La faune, la fleur. Voilà, réophiles. Voilà. Comme la truite Fario, bien entendu. Et l'ombre commun, les premières chabots et des vérons apparaissent. Alors, sur ce linéaire, sa largeur est d'environ 10 à 15 mètres. Sur sa partie amont, le secteur connaît encore quelques méandres, mais dans sa partie aval, la morphologie est plus rectiligne et monotone, du fait de l'exploitation agricole et industrielle de proximité. C'est sur ce parcours que les derniers travaux d'aménagement ont été effectués.
Par le SIAGA ? On parle des travaux d'aménagement du SIAGA, d'accord.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut en toucher deux mots ? D'ailleurs, Fabien lève le doigt, mais j'allais lui tendre le bâton de parole, bien évidemment, sur ce que le SIAGA a pu faire d'un point de vue halieutique dans les travaux qui ont été faits, je crois, l'année dernière et l'année d'avant.
Oui, alors sur les derniers travaux, oui, l'idée c'était de... Il y avait plusieurs objectifs en fait à ces travaux. C'était un de garantir en fait l'inondation sur la vallée, protéger les habitations,
risques d'inondation.
Voilà, en arasant les seuils donc qui sont des entraves à la circulation du cours d'eau, qui sont de petits barrages. Qui vont rehausser le niveau de l'eau. Donc l'idée en les arasant, c'était aussi de faire descendre le lit de la rivière et de protéger les berges. Et donc dans l'idée de prévention des crues, pour l'inondation. L'intérêt piscicole et halieutique, c'était qu'un seuil retient les sédiments, donc toute la matière, la matière dure, c'est-à-dire les galets, les graviers, les blocs dont les invertébrés et les poissons ont besoin, qui sont nécessaires au cycle biologique de la truite fario et autres espèces piscicoles, et qui entravaient la circulation des truites qui sont des migrateurs au même titre que le saumon, qui ont besoin donc de circuler, de migrer vers l'amont pour notamment pour se reproduire et assurer la population.
La pérennité de la population.
La pérennité de l'espèce. Donc voilà, donc sur les deux dernières années, il y a 7 seuils qui ont été arasés et qui ont montré des effets assez
bénéfiques.
Assez bénéfiques, ouais. On a vu rapidement des truites remonter. On a aussi des ombres communs qui avaient tendance à régresser sur le parcours, qui se situaient beaucoup plus bas, qui commencent à réoccuper la zone de Saint-Laurent-du-Pont. Donc ça, c'est assez encourageant. Sinon, le SIAGA a quand même fait beaucoup de travaux. Hein. Ceux à venir seront l'arasement de digues pour laisser la libre circulation aussi au cours d'eau en cas de crue, de retrouver un limageur, de pouvoir s'épandre sur son profil en large, sur une plus grande largeur pour à la fois diminuer les débits en cas de crue et en même temps redonner une morphologie un petit peu plus naturelle. Donc bon, on va pas parler que des travaux du SIAGA aujourd'hui, mais fait partie de
des relations, des bonnes relations que vous pouvez entretenir avec ce type de structure.
Voilà, tout à fait. Nous, notre rôle, c'est vraiment de
Jean peut en témoigner. Excusez-moi, Fabien, je vous coupe un peu la parole, mais Jean peut témoigner des bonnes conditions dans lesquelles ces travaux se sont faits en termes de communication entre la PPMA et le SIAGA, je crois. Hein.
Oui, bien sûr. Bon, j'ai fait pas mal de réunions là-dessus. Il y avait des relations de travaux qu'on suivait tous les lundis. C'était très important. Donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on pouvait le signaler. Ils remettaient ça en ordre.
Vos remarques ont été prises en compte.
Toutes les remarques ont été prises en compte, oui, bien sûr, oui, oui, oui.
Très bien.
Un mot sur la définition du SIAGA, l'explication.
Alors, allez-y, Gilles, prenez le micro. Ah, vous ne le savez pas, d'accord, ok. Alors, traduction SIAGA, effectivement.
Le SIAGA, c'est le syndicat intercommunal de l'aménagement du gué et de ses affluents.
Voilà, pour les néophytes.
C'est un organisme d'État.
Tout à fait.
Merci, Gilles.
Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu la question.
Sur le mode de gestion de la rivière, enfin des cours d'eau de Chartreuse, c'est un mode de gestion un petit peu particulier. Alors, je vois Marcel qui me fait signe. C'est pour parler du mode de gestion
ou... Non, c'est pour continuer un petit peu la présentation des différents secteurs.
Ah, parce qu'on n'avait pas fini. On était parti. Alors, on y reviendra après. Très
bien. Alors, Marcel. Le secteur 2 représente le linéaire situé entre la limite aval de la réserve de Saint-Laurent-du-Pont et le pont Jean-Lioux sur la commune d'Entre-Deuillet. C'est un petit peu monotone, mais bon, je ne vois pas trop de façons pour expliquer. Secteur 3. Alors là, le gué. Nous quittons le gué mort pour retrouver le gué. C'est notre secteur le plus aval. Malgré l'absence de barbeaux, les ombres sont mieux présents, mais la truite fario reste majoritaire. Voilà. Ici, c'est une rivière plus large qui s'impose puisque le gué mort reçoit les eaux du gué vif au niveau d'Entre-Deuillet pour former le gué. Les espèces présentes sont la truite fario, l'ombre commun, le chabot, le veron et la loche franche du fait de la thermie moyenne annuelle plus importante, température de l'eau plus importante qu'en tête de bassin. Le secteur 3 est un parcours plus technique par sa taille. Ben ça, après, technique, on parlera avec Gilles de la pêche à la mouche, il reviendra. Voilà. Ainsi que la croissance plus rapide des poissons qui en fait un vrai challenge pour le pêcheur confirmé. Il est compris entre la sortie du canal Sibille, step des échelles, et le barrage des gorges de Chaille.
Voilà. Alors, step, c'est la station d'épuration ?
Station d'épuration, voilà. Tout simplement. Voilà.
D'accord.
Vous voulez que je vous parle de ces affluents ou...
On va rester là parce que la petite balade géographique est déjà assez riche dans cette première partie de présentation, Marcel, merci. On va revenir sur le mode de gestion un petit peu particulier de la PPMA par rapport aux cours d'eau locaux avec Fabien.
Oui. Alors, la PPMA de Saint-Laurent-du-Pont, donc les pêcheurs du Hoguet, ont voté et sont engagés dans une gestion patrimoniale
Qu'est-ce que c'est qu'une gestion patrimoniale ?
Alors, une gestion patrimoniale, ça n'est pas accepter qu'on a une richesse halieutique et naturelle importante et laisser faire la nature, comme on peut l'entendre. C'est vraiment, au contraire, de préserver le milieu aquatique, sa qualité physico-chimique. Ne plus penser la gestion des rivières et des ressources piscicoles par l'empoisonnement, par le déversement de truites issues de la pisciculture.
Qui
est très traditionnel dans le monde de la pêche. Enfin, donc c'est un passé assez lourd. Non, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte qu'on a une richesse, justement, naturelle, et de tout mettre en œuvre pour essayer de la préserver, de la protéger un maximum pour garantir le fonctionnement naturel du milieu. Et donc, pour vous donner une idée, sur des secteurs qui ont pu être dégradés par le passé, par l'industrie, par l'agriculture, tentés par quelques travaux morphologiques de renaturer certaines zones, de redonner des zones d'habitat, des zones de frayères aussi, donc de nids pour la reproduction détruite, mais pas que. On parlait tout à l'heure de l'arasement des seuils, voilà, c'est de permettre la circulation, de faire en sorte que le fonctionnement se fasse naturellement et éviter un maximum l'introduction de truites de souche issues essentiellement de truites de souche atlantique, donc qui, on le sait par le passé et par étude, ont tendance à introduire la génétique locale des truites qui, en Chartreuse et sur le Guiers, présentent un enjeu majeur de conservation, puisqu'on est sur des souches relativement sauvages et...
Est-ce qu'on peut parler de souches autochtones, Fabien ?
Tout à fait, c'était les mots que je cherchais. Ouais, on peut parler de souches autochtones. Alors, on a quand même une altération qui s'est faite par le passé, puisqu'on a près de 100 ans de déversement quand même. Hein. Il faut savoir que cette gestion, on l'a optée que depuis 2001.
Oui.
2001, qui est une année bien ancrée dans l'esprit des pêcheurs, puisque c'est une année où le Guy a connu une grosse pollution sur son cours aval. Qui avait anéanti 100% de la vie aquatique. Donc c'est aussi par cette pollution qu'on en est venu à réfléchir autrement, en se disant que déverser des poissons, c'était bien, mais que c'était...
C'était pas une fin en soi.
C'était pas une fin en soi, et puis c'était surtout, comme on l'entend dire souvent, un pansement sur une jambe de bois, quoi. On a beau déverser tout ce qu'on veut, si le milieu n'est pas à même de pouvoir se régénérer...
D'être autonome seul,
On n'ira pas loin, et puis d'autant dans ce contexte actuel où les milieux aquatiques subissent beaucoup d'agressions au quotidien... par le dérèglement climatique. Donc voilà, en fait, on va favoriser justement ces truites de souches autochtones, puisqu'elles sont les plus à même, de par leur patrimoine génétique, de pallier à tout ce qui va pouvoir être limitant pour leur survie. Donc à savoir des crues qui sont de plus en plus importantes, des étiages qui sont de plus en plus longs, qui sont de plus en plus sévères.
Avec la sécheresse, oui.
Voilà, avec les sécheresses, avec des cours d'eau qui ont été altérés morphologiquement. Donc voilà, on est vraiment axé sur la préservation de la truite autochtone du Guiers.
Alors, souche de truite, pardon, locale méditerranéenne, hein, sur les documents. C'est un positionnement assez courageux qui ne vous a pas valu que des amis, puisque c'est un petit peu au détriment de la quantité, c'est de la qualité au détriment de la quantité, pardon, d'une certaine façon. Et sur ce point particulier, on va un petit peu à l'inverse de la tradition aussi. À laquelle la plupart des pêcheurs étaient habitués.
Oui, tout à fait. La PPMA de Saint-Laurent-du-Pont a été quand même assez... a été une des premières, en tout cas sur le département de l'Isère, à favoriser ce type de gestion. C'est sûr que pour des pêcheurs qui ont connu des années où le contexte naturel était peut-être plus intéressant déjà, enfin moins altéré, et avec des déversements massifs de truites, l'impression que tout allait bien, tout était beau, ce qui était certainement le cas si on devait comparer à aujourd'hui. Maintenant, bon, je pense pouvoir dire qu'on nous a un petit peu faussé la vérité dans ces années-là de forte introduction, puisque le milieu était déjà altéré à la suite des années 60 par le remembrement, notamment le recalibrage des cours d'eau, un tas de choses. Non, c'est sûr qu'on donne l'impression que le milieu est appauvri, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est simplement qu'on on a un peuplement qui a subi des agressions et qui aujourd'hui est seul à pouvoir se régénérer et se refaire. Donc, avec des, en plus des poissons qui sont sauvages et qui réagissent de façon sauvage, donc qui ne sont pas, qui sont pas, qui sont moins simples, voilà, à attraper, qui sont pas toujours présents.
Plus sportifs.
Et plus sportifs aussi.
J'en atteste.
C'est pas le critère premier, non.
D'accord. Alors, on pourrait parler d'une truite chartroussine, alors, qui a ses qualités, effectivement, sauvages, pas faciles.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est vraiment... Alors, vous parliez de truite de souche méditerranéenne, c'est même un petit peu plus précis que ça, hein, si on va chercher dans les études
une
scientifiques.
Une truite corse.
Elle sera pas corse, non. Alors, en fait, chaque truite, et presque même chaque affluent, finalement, aura sa truite de souche, quoi. Donc, puisque par les entraves, les barrages, on a aussi sédentarisé des souches, donc elles se sont, au fil des années, reproduites ensemble et ont renforcé leur génétique et formé des souches finalement vraiment très locales, et même, voire même plus locales que le seul massif de la Chartreuse, puisque le massif présente plusieurs souches de truites qui sont maintenant dites fonctionnelles. C'est des truites qui ont des souches qui peuvent être un petit peu altérées par la souche de truite atlantique. Mais qui sont tout à fait sauvages, qui se reproduisent seuls puisqu'on les aide plus, on ne déverse plus, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, je voulais simplement préciser ce qu'on disait tout à l'heure. On s'est pas fait que des amis, on a aussi séduit un paquet de pêcheurs. En sens inverse. Faut savoir que dès lors que la PPMA a voté, hein, d'ailleurs, et adopté cette gestion patrimoniale, c'est parce que les pêcheurs l'ont aussi souhaité. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sont sensibles, justement, au côté.
Oui, Jean.
Oui, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont sensibles à cette gestion, disons. Et pour nous, bon, c'est intéressant quand même, parce que bon, on voit des pêcheurs qui connaissent quand même la rivière et qui viennent de plus en plus chez nous, quoi. Qu'avant, bon, c'était des déversements, c'était plus les locaux. Bon, on pêchait la truite, bon, c'était facile pour eux. Mais maintenant, c'est de plus en plus difficile, quoi, voilà. D'accord. Et c'est plus sportif aussi, quoi.
Mais si je me permets...
Allez, c'est Gilles.
On n'est pas les seuls à pratiquer ce type de gestion en France. Hein. De nombreuses associations le font.
Ouais, tout à fait.
Et plus ça va aller. Il faut s'adapter avec son temps. On n'a pas les mêmes conditions. On n'a pas les mêmes conditions de rivière, de qualité
c'est
d'eau.
C'est comme
on
la neige, oui.
On manque d'eau, tout le monde s'en rend compte. Et on voudrait attirer le public, non-pêcheur, justement, à venir fréquenter nos réunions, à venir nous voir, justement, pour partager nos avis et nous aider à protéger le milieu. Bon... je leur laisse à nouveau le micro, je me suis permis d'interrompre Fabien.
Oui, non, mais c'est important de le souligner, je veux dire, ça a d'autres intérêts que la pêche. Hein. Notre idée, c'est vraiment de retrouver, à la base, c'est pas de retrouver des poissons, l'idée, c'est vraiment de retrouver un milieu qui est sain pour, en tout cas pour la faune sauvage et, dont les cours d'eau abritent.
Et autonome,
donc,
en termes de
reproduction. Donc on va parler de qualité d'eau, on va parler d'invertébrés, et naturellement, ensuite, quand on aura retrouvé ces premiers paramètres, la nature a cette faculté de pouvoir se régénérer assez facilement du moment qu'on la préserve un peu et qu'elle ait les moyens de se régénérer. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de retrouver une rivière sauvage avec autant que possible un écoulement lui-même naturel et autant d'habitat pour les invertébrés, pour les poissons et puis finalement pour aussi contenter le pêcheur ou seulement le naturaliste qui aime observer un simple plongeur parce qu'il a de la nourriture à disposition, un promeneur parce qu'il aime voir une rivière avec des arbres autour, et si possible des arbres qui sont aussi eux naturels. Enfin voilà, ça, je pense que ça s'adresse pas qu'aux pêcheurs, ça s'adresse, c'est surtout un message que la nature sait faire du moment qu'on ne l'altère pas, quoi.
Alors, je précise, Fabien, vous parliez du simple plongeur, qui est un petit oiseau spécifique de nos rivières, surtout des rivières comme le Guiers-Morts, rivière de première catégorie. Il ne fréquente pas n'importe quelle rivière.
Non.
Et c'est un oiseau passionnant à observer. Je vais passer le bâton de parole à Marcel, qui lève le doigt depuis un petit moment, qui voudrait ajouter quelque chose.
Oui, ces truites sauvages sont très difficiles à prendre.
Ah, on sent le voilà. Vécu, là.
Souvent, il y a des pêcheurs qui arrivent au bord de l'eau, ils ont pêché une demi-journée, une journée, il n'y a plus rien. Qui n'a jamais entendu cette phrase au bord de la rivière, prononcée de façon péremptoire par un pêcheur ? Souvent bredouille, ces mêmes paroles tombent telles une sentence, il n'y a pas de discussion possible, le cours d'eau est vide. Heureusement, il existe des méthodes plus scientifiques pour connaître l'état des peuplements piscicoles d'un cours d'eau. Voilà.
D'accord.
Et la pêche électrique fait partie de ces méthodes scientifiques. Et toutes les pêches, de façon générale, qui ont été pratiquées, nous montrent que la ressource piscicole est quand même relativement importante, même si elle est altérée.
Alors, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous peut expliquer aux auditeurs, notamment néophytes, ce qu'est la pêche électrique et à quoi ça sert ?
Oui, alors simplement préciser ce que voulait dire Marcel. Oui, en fait, l'idée, ça n'est pas que de faire des actions par simple conviction, c'est de se baser sur des observations, sur des suivis scientifiques. Donc on connaît les problématiques sur le milieu, on connaît aussi ce qui va bien, et de par là on fait voter des actions et on essaye de favoriser ce qui va bien et de continuer à proposer des actions sur ce qui tarde encore un petit peu à bien fonctionner. Donc une pêche électrique, ça n'est pas mené par une APPMA, c'est mené par une fédération.
D'accord.
Qui a des techniciens qui sont habilités pour proposer ce type de pêche qui peut faire peur. Qui peut surprendre à celui qui ne connaît pas. En fait, la pêche électrique va servir pour faire une pêche de sauvetage, par exemple, dans le cas de forte sécheresse. On va pouvoir faire des pêches électriques pour prélever des individus et essayer de connaître mieux leur génétique. Et on a la plupart des pêches électriques qui sont proposées qui sont des pêches d'inventaire.
De comptage.
L'idée, c'est de connaître la population en taille, en nombre d'individus, en croissance, enfin un tas de paramètres. C'est pratiqué avec donc un groupe électrogène, une anode, une cathode, et on forme un barrage humain dans la rivière en remontant le cours d'eau pour essayer de capturer les truites qui sont en fait attirées par le courant. On parle de nage forcée. Et donc, attirés par le courant, on va les attraper à l'épuisette près de la node.
Oui, c'est pas du 220, on massacre et pas le poisson,
on n'a
pas peur. Bon, on est équipé de cuissards, de vadères, de grands pantalons de pêche isolants, de façon à pas prendre une décharge nous-mêmes, mais c'est pas dangereux pour le poisson, c'est ce que je voulais rajouter.
Ni pour les bénévoles qui y participent, qui sont donc des bénévoles de la PPMA, entre autres. Jean n'a pas l'air d'accord. Déjà pris une décharge, Jean ?
Un petit peu plus ou moins, ouais, parce que bon, on est quand même, il y a une sécurité, hein, on a un appareil, une personne qui se trouve au bord, disons autrement dit, quand on fait les pêches électriques, et qui a un arrêt automatique, disons autrement dit, au cas qu'une personne tombe dans l'eau. Si une personne tombe dans l'eau, elle prend une petite décharge quand même, hein. Donc c'est pour ça que tous ceux qui sont au bord de cette anode, ils ont tous des gants en caoutchouc pour pas prendre justement un petit peu de courant, quoi.
Non, c'est sûr, voilà. On va pas dans l'eau en maillot de bain, on y va avec des waders, on y va avec des gants qui remontent jusqu'au coude. Donc non, il y a tout non, un... D'ailleurs...
Moi, je voulais dire surtout pour le poisson, parce que les gens vont penser qu'on tue le poisson. Le poisson est simplement endormi, on va dire ça comme ça pour simplifier. Et une fois qu'il est mesuré, compté, etc., à ce moment-là, après, on le remet à l'eau dans de très bonnes conditions. Il y a très peu de pertes sur les pêches électriques.
Très bien, on va passer alors petite question aussi sur le patrimoine naturel que l'on a spécifiquement en Chartreuse et qui a une incidence par rapport au statut de rivière première catégorie dont se targue le Guiers. La question est posée à Fabien, mais les autres peuvent intervenir également. Non, Fabien.
Oui, mais on se situe dans le massif de la Chartreuse, donc on est sur un parc naturel, un massif donc tout aussi naturel où les rivières sont issues de réseaux karstiques calcaires. Donc l'eau, les nappes phréatiques se regorgent par infiltration de l'eau. On est aussi sur la tête de bassin, puisque c'est le domaine qu'on a en gestion, sur un réservoir de biodiversité, donc il faut le savoir. Et des rivières donc, qui présentent toutes les caractéristiques de rivières de première catégorie, dont la truite Fario est majoritaire en fait. Enfin, une rivière première catégorie, c'est une rivière qui a une thermie, donc des températures qui sont adaptés à la vie des salmonidés, dont fait partie la truite Fario, l'ombre commun. Et c'est une richesse naturelle, c'est une richesse halieutique aussi, puisqu'on voit bien par le dérèglement climatique notamment, que ce sont des zones qui ont tendance à voir leur périmètre se réduire d'année en année, puisque les eaux notamment se réchauffent, diminuent aussi. Donc c'est une réserve, c'est un vrai patrimoine naturel à sauvegarder.
Spécifique à la Chartreuse.
Et spécifique à la Chartreuse. Et...
Alors, on a parlé de patrimoine naturel. En ce qui concerne le patrimoine piscicole qu'on trouve dans nos cours d'eau, qui peut nous en parler parmi vous quatre? Allô, la Terre.
Bon, ben j'ai déjà fait une petite introduction, mais on a en gestion donc le Guiers mort. Tout à l'heure, Marcel nous en parlait. Donc depuis les sources au-dessus de Saint-Pierre de Chartreuse à Perquelin, jusqu'au pont Jean-Liou au niveau d'Entre-deux-Guiers, on est déjà sur des milieux qui sont, pour ne parler que des sources, relativement préservées, et sur la partie basse au niveau d'Entre-deux-Guiers déjà un petit peu altérées. Faut savoir que le Guiers mort, par exemple, sur la plaine, là, à ce niveau-là, a été réduit de moitié lors du remembrement. Donc, il a perdu la moitié de son linéaire, donc avec toutes les altérations que ça comprend. Mais on retrouve en fait essentiellement la truite Fario sur la zone amont, donc relativement autochtone et comme je le disais tout à l'heure, qui présente un enjeu de conservation de par sa qualité génétique. On va retrouver donc dans la plaine, à la sortie des gorges de Saint-Laurent-du-Pont et jusqu'à Entre-deux-Guiers, on va recommencer à retrouver le Véron, le Chabot, aussi des Loches Franches et puis l'Ombre commun, voilà, qui a connu de belles années sur le Guiers et qui en connaît un petit peu moins aujourd'hui, mais qui reste encore présent sur le linéaire principal et puis sur les affluents aussi. C'est essentiellement les espèces piscicoles qu'on va trouver sur notre domaine.
Pourquoi l'ombre commun, on le retrouve un petit peu moins? Est-ce qu'il est plus fragile que la truite Fario? Oui.
C'est, disons que l'ombre commun, contrairement à la truite Fario sur notre domaine, en tout cas, donc on va parler du domaine du Haut Guiers, au-dessus des gorges de Chaille, donc qui marque la fracture entre la partie haute du Guiers et la partie basse au niveau de Pont de Beauvoisin et puis jusqu'à la confluence à Saint-Genis-sur-Guiers. Il n'a pas une présence endémique sur ce secteur-là du cours d'eau. C'est essentiellement un poisson qui est issu d'introduction dans les années 70, je pense.
64.
Voilà, même 64. Il occupe pas le même espace que la truite Fario. Il va apprécier les courants avec une hauteur d'eau importante puisqu'il ne va pas se protéger comme le fait la truite dans une sous-berge, sous un embâcle ou simplement un rocher ou un bloc. Il va être vraiment confronté en plein courant, notamment à des grosses crues qui peuvent le faire disparaître. Il aura subi aussi la pression de pêche, puisqu'il est plus facilement dérangé par le pêcheur. C'est ces facteurs-là qui ont fait qu'on n'a plus la présence qu'on avait il y a quelques années de ça.
Ouais, si je puis me permettre, contrairement à la truite, il ne va pas avoir une cache très précise. Il va se promener souvent en bande. Il se déplace souvent. Il va monter ou redescendre le long de la rivière en fonction de la qualité de l'eau, de ses besoins d'oxygène, etc., de nourriture, comme dit Jeannot. C'est un poisson assez difficile à comprendre et à cerner. On dit qu'il est relativement lunatique. Il va prendre des appâts un peu bizarres parfois. Et contrairement à une truite qui, elle, est tout à fait classique. Bon, je vais repasser la parole. Bon,
simplement pour parler de son amoindrissement en termes de population, je pense que clairement, la quantité en eau dans les cours d'eau a diminué. Les zones où il peut s'y plaire ont diminué aussi. Et c'est pourquoi je pense on l'a perdu. D'ailleurs, on voit bien, on le retrouve essentiellement dans des zones qu'on va appeler des fosses, où la hauteur d'eau lui convient, où il est plus à l'abri de fortes crues, dans un cours d'eau qui a été altéré, qui est compris entre deux digues, et dont les crues sont maintenues dans un lit mineur. Et donc davantage plus dévastatrice.
Oui, monsieur Jean-Thibault.
Il faut dire que l'ombre avant, on le voyait souvent à l'aval, disons autrement dit, de Saint-Laurent-du-Pont, hein, c'est-à-dire de après les gorges de Chaille jusqu'au Rhône, parce que l'ombre commun remontait du Rhône déjà un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il était plus souvent présent à l'aval. C'est vrai qu'en amont, nous on l'a introduit, mais c'est plus difficile, comme disait Fabien, hein, il faut des fosses, et on n'a plus de fosses particulièrement, quoi. Alors ça fait que l'ombre, il tient encore quelques endroits, mais bon...
Mais se fait rare.
Se fait rare.
À bon escient, pour de bonnes raisons. Alors, quelles sont les contraintes principales par rapport au guillet, par rapport à sa situation géographique, Fabien ?
Bien, on en a déjà évoqué quelques aspects. C'est vrai qu'on est un petit massif, hein, massif de la Chartreuse, moyenne montagne, avec les problématiques d'enneigement, puisqu'on est sur des cours d'eau qui sont de régime niveau pluvial, hein, donc on a besoin de neige, tout comme on a besoin de pluie, des problématiques de pression aussi, hein, on a pu en avoir. C'est pourquoi après avoir opté pour une gestion patrimoniale, on essaye de aussi réfléchir à la réglementation, puisque le pêcheur nombreux entre donc le bassin chambérien, Lyon, Grenoble, qui apprécient encore le guillet et qui viennent en nombre sur des secteurs qui sont de plus en plus restreints en linéaire, voilà. Donc ça peut être un des facteurs principaux. Je pense que la quantité en eau, la ressource en eau, la pression de pêche peuvent être des contraintes sur nos rivières. Et puis la situation donc de moyenne montagne avec un réchauffement qui est de plus en plus important. Voilà.
Hélas. Et alors, concernant les actions qui sont menées par la PPMA, là, le micro est ouvert à vous quatre. Qu'est-ce que vous faites ? Je lis aménagement, entretien, lutte contre la pollution, la pêche électrique, on en a parlé, l'étude, le suivi. Qui peut me parler de tout ça ? Je vois que le micro est devant Marcel. Voilà.
Depuis,
tu dois être le savant.
Depuis, depuis le mois de juin, juillet, on a fait une formation dite SAMU pour pouvoir faire des analyses de façon assez précise.
Avec une petite mallette ?
Oui, même une grosse mallette.
Une grosse, carrément.
voilà. Et pour en fait mesurer tout ce qui est nitrate, ammonium, phosphate, le taux d'oxygène dissous, la dureté, l'acidité de l'eau, la concentration de certains métaux comme le zinc, le cuivre, le fer. Et ça nous a permis, parce que jusqu'à présent, on disait cette eau, elle nous semble pas bonne, elle est polluée ou elle est pas polluée, mais en fait, il n'y avait aucune mesure qui avait
été faite. Ça vous a permis d'être factuel.
Voilà, exactement. À ma connaissance, aucune mesure. Voilà, bon. Fabien me dit qu'il y a déjà eu des analyses.
Et est-ce que ces mesures que vous prenez font peur ou pas depuis que vous les prenez ?
Ça dépend où on les prend. On va pas.
Est-ce qu'elles vous surprennent ou est-ce qu'elles confortent des idées que vous
Il y a des endroits où on était agréablement surpris. Par exemple, on a fait des mesures en aval de la station
d'épuration
de Saint-Laurent-du-Pont et les mesures étaient très bonnes. On a fait d'autres mesures à d'autres endroits où là, franchement, c'était catastrophique. Voilà.
Ça fera, ça fera l'objet de prochains échanges et débats dans une prochaine émission. C'est un sujet assez crucial, en effet, la qualité de l'eau.
Voilà. Donc, tout cela me fait dire que de toute façon, on arrivera à avoir des rivières avec des poissons, avec des insectes aquatiques, à condition que nos centrales d'épuration fonctionnent parfaitement. Il y a un projet au niveau donc des communes Saint-Christophe, Les Échelles, entre Deuillet, d'une nouvelle centrale d'épuration. Et ça, c'est vrai que c'est un projet qui, pour nous, est très important et qui est le bienvenu. Voilà.
Alors, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. D'accord. Donc ça fait partie des actions que vous menez, effectivement, la mesure de la qualité de l'eau, effectivement. Alors ensuite, donc ça, c'est la lutte contre la pollution, on pourrait dire. Sur tout ce qui est entretien, qu'est-ce que vous faites de particulier?
Au niveau des rives, il y a des plantations qui ont été faites. Ça, je pense que Fabien ou Jeannot pourraient peut-être en parler de façon plus précise que moi, parce que je n'avais pas assisté à ces plantations.
Quel genre de plantations, messieurs?
Bon, alors pour les plantations, là, on a fait un suivi un petit peu avec le SIAGA, suivant les travaux qu'on a faits. On avait, disons autrement dit, demandé qu'ils nous replantent un petit peu des saules au bord des rivières, quoi, parce que bon, ils nous ont tout enlevé ce qu'il y avait. Donc ils nous ont mis des rochers, c'est bien beau les rochers, mais les rochers, ça ne fait pas de la verdure. Alors donc, on a réussi à planter des saules entre les rochers, et cette année, ça a tout repoussé, tout ce qu'on a planté, ça va repartir pour cette année encore, quoi. Hein. Donc voilà, on fait des actions comme ça. Après, nous-mêmes, les bénévoles de la société, on fait ça aussi, hein, disons. Hein, on n'attend pas uniquement le SIAGA pour qu'il fasse tout ça, quoi. On fait aussi un petit peu en avance.
Ça fait partie de vos missions. Voilà. Alors, je vois aussi promotion du loisir pêche envers la jeune génération, sensibilisation à l'environnement, atelier pêche nature, participation aux journées découvertes pêche et milieu aquatique. Alors là, l'interlocuteur, c'est Fabien.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez mis en place au niveau de la PPMA pour les jeunes, justement?
Alors, c'est les fédérations, en fait, qui avaient fait le souhait d'instaurer des ateliers pêche nature. Donc, une sorte d'école de pêche pour promouvoir le loisir, sensibiliser les jeunes à l'environnement, les amener à la pêche aussi, puisque c'est un public qui n'a pas toujours l'occasion d'être au bord de l'eau, ou de moins en moins. Essayer de leur proposer un cadre, donc associatif, avec l'intervention d'un professionnel dont je suis attitré. Puisque je suis responsable de l'atelier pêche nature, donc l'idée de la PPMA, c'était vraiment de proposer des demi-journées en semaine, le week-end, pour les jeunes de la vallée du Guiers, pour les emmener à la pêche, leur faire découvrir les plaisirs de la pêche en lac, en rivière, les différentes techniques qu'on peut mettre en pratique sur le territoire, les espèces qu'on peut trouver, et puis tout le plaisir qui intervient lors d'une partie de pêche et qui nous satisfait nous au quotidien et toute l'année et qu'on a envie de transmettre aux jeunes, voilà. Donc ça a évolué dans le temps, on a changé les formats, on a changé la façon de faire entre temps. On proposait essentiellement dans un premier temps des samedis après-midi, des ateliers les samedis après-midi avec des thématiques diverses, hein, sur le milieu, sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement des milieux. On proposait des visites de l'écloserie de la fédération à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Des ateliers où on encadrait jusqu'à quand même 25 inscrits, hein, 25 jeunes chaque année, au bord des lacs et des rivières, pour leur présenter nos techniques. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Les bénévoles qui ont déjà bien à faire se déchargent un petit peu de ça, et on est sur un format, donc ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais sur des formats un petit peu plus personnalisés, des stages un petit peu plus personnalisés avec des petits groupes de 3 ou 4 pêcheurs pour éviter un déplacement de 20 ou 25 jeunes, encadrants et bénévoles compris, sur le mercredi après-midi. Voilà.
Très bien. Alors, on parlait de bénévoles, et là, je me tourne vers Marcel et Gilles, précisément. Donc, vous êtes des bénévoles récents à la PPMA, messieurs. Alors, quel est le portrait d'un pêcheur ou d'un bénévole idéal, d'une part, dans les pratiques de pêche possibles, mouche, toc, leurre, sans rentrer trop dans les détails, sur vos rôles de sentinelle de l'environnement, le respect du milieu, des habitants, la pratique du no-kill ou prendre et relâcher en français, les petits séjours groupes de copains, visiblement, vous faites des choses en off. En quoi consiste l'investissement dans l'association, Marcel et Gilles ?
C'est un gros investissement, donc il faut être retraité pour pouvoir s'y consacrer. Et moi, après 50 ans de travail, j'ai dit bon, ben autant donner mon temps à cette association-là et protéger la nature, faire des travaux, leur filer un coup de main parce qu'ils n'ont pas tout le temps de tout faire. Petit à petit, on s'est investi avec Marcel, donc que ce soit pour les pêches électriques ou les analyses, à tremper les fesses dans l'eau à 15 degrés, si possible. On aime bien quand elle est à 15 degrés. Pour le poisson, mais pas pour nous. ça ne nous empêche pas d'aller à la pêche, évidemment. Donc, personnellement, je passe le micro tout de suite, Marcel, t'inquiète. Je pêche.
Chauffe, Marcel, chauffe.
Je pêche à la mouche depuis 40 ans, mais je ne suis pas unidirectionnel, on va dire. J'ai pratiqué toutes les pêches, vairon, vert, machin. Bon, le vert, c'est tellement sale, on essaye de faire venir les épouses.
Je suis d'accord.
On essaye de faire venir les dames.
On aime autant pas toucher, oui.
On essaye de faire venir les dames à la mouche, parce que.
Sans le
si
vert.
Si elles ont vu le film et au milieu, Coune Rivière. Brad Pitt, c'est ce qui peut les attirer. Donc après, je vous dis, je ne suis pas exclusif, hein, je tolère évidemment tous les autres pêcheurs, à condition qu'ils protègent le poisson, qu'ils le remettent à l'eau autant que possible, dans de bonnes conditions, qu'ils pêchent sans ardillon, c'est-à-dire sans le petit truc qui peut blesser le poisson. Mais après, si c'est un prélèvement raisonné, une pêche, on va dire... je risque d'être agressif si je continue, parce que je suis un peu intransigeant là-dessus, si vous voulez. J'ai connu, moi, là, il y a 50 ans, des rivières très, très empoisonnées. Je n'ai pas dit empoisonnées. Mais ça a baissé, il ne faut pas se le cacher. Et plus on remet de poissons à l'eau, et meilleur c'est, à mon sens. Maintenant, ça n'engage que moi. Marcel, je te laisse la parole.
Merci, Gilles.
Dans mon cas, être bénévole, d'abord, c'est être pêcheur. Mais un pêcheur responsable.
Ça change tout.
Donc responsable, ça veut dire qu'il s'intéresse au milieu où il pêche. Pour moi, c'est très important. Et puis un bénévole, comme le dit Gilles, moi, je suis à la retraite depuis bientôt un an. Donc bénévole, c'est consacrer du temps à ce qu'on aime et aux autres. Et à part ça, je trouve que c'est très enrichissant parce qu'on rencontre des gens, de nouvelles personnes. On rencontre on échange, voilà. Et dans notre domaine, il y a fort à faire. Être bénévole, c'est s'engager, c'est aider, c'est apprendre, parce que là, j'apprends plein de choses en ce moment.
C'est être acteur ?
Exactement, voilà, être acteur.
C'est pas uniquement payer sa carte pour aller pêcher, c'est un peu plus que ça.
Ça, c'est pas
comme
bénévole.
Comme dans toutes les associations, voilà.
Être bénévole, c'est s'investir, voilà.
Je vois Fabien qui me lève.
Je vais continuer. Comment j'ai connu la PPMA des pêcheurs du Hoguier ? J'ai connu la PPMA des pêcheurs du Hoguier à 2500 km d'ici.
Ah oui.
À Tallinn.
Où ça ?
Tallinn, en Estonie.
D'accord.
Donc là, je faisais un voyage et j'ai rencontré Muriel et Patrice Riquero, qui est lui-même bénévole à la PPMA et qui est garde de pêche.
D'accord.
Nos femmes ont été faire des achats et nous, on s'est assis à un
bar. Ça s'appelle du shopping.
Et Patrice m'a montré toutes les belles photos, m'a parlé donc de la PPMA, de tout ce qu'elle faisait. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà, et c'est pour ça que maintenant, je suis bénévole à la PPMA. Voilà.
Mais alors, une petite question curieuse et complètement hors sujet. Vous habitiez déjà en Chartreuse, Marcel ?
J'ai eu la chance de travailler en Chartreuse.
Oui.
Ouais, j'ai eu cette chance-là. Après, j'ai connu mon épouse, ce qui fait que je suis parti, ça fait 33 ans maintenant, de la Chartreuse. Mais c'est vrai que la Chartreuse, pour moi, il y a un côté émotionnel. J'aime les gens qui habitent la Chartreuse. J'aime...
La Chartreuse.
La Chartreuse, voilà. Et donc, pour moi, c'est assez émouvant de me retrouver maintenant, de nouveau, ici. Voilà. En Chartreuse. Bon, j'habite pas très loin, je suis de Chambéry, plutôt de côté de Cognin.
On va y arriver. Donc, je cherchais à savoir où vous étiez. D'accord. Voilà, vous êtes au pied de la Chartreuse.
Adrien m'a demandé de trouver une maison par ici. Mais non, je pense pas. Mais ça m'empêche pas que.
Faudra passer me voir après.
Hein. Ouais, il y en a à vendre dans le coin. Hein.
Bon, voilà. Bon, après, je repasse le micro à Fabien.
Oui, je vais apporter un petit élan de jeunesse à tout ça.
Ah la vache.
Non, et jeunesse, bon, plus ou moins, puisque j'ai... Et moi, il y a 25 ans, j'ai 30 ans, et il y a 25 ans que je fréquente et que je pêche le gué. J'ai aussi connu, j'ai l'impression de parler du coup, si je peux me permettre, comme un vieux.
Merci.
Mais j'ai vraiment connu aussi des belles années où, voilà, je pêchais des poissons dans mes pieds, en nombre. Facilement, j'avais beaucoup moins d'expérience, je m'y plaisais fortement, c'était hyper agréable, agréable d'autant plus qu'on rencontrait beaucoup, beaucoup de pêcheurs, parce que beaucoup venaient pêcher lié, donc des gens du cru ou de plus loin d'ailleurs. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, j'ai une situation un peu particulière, je dédie pas mal de mon temps aussi au sein de la PPMA, dans ses actions, en essayant de la valoriser, de travailler un maximum pour elle. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour des personnes de mon âge, de constater, d'avoir l'impression qu'on nous laisse un héritage un petit peu amer, parce que bon, c'est vrai que on a cette impression que les choses se dégradent et qu'elles vont pas s'améliorer, mais je pense que le meilleur moyen d'essayer de faire un petit peu, c'est justement de s'investir un petit peu. C'est de proposer un petit peu de son temps. On a tous beaucoup de temps, ou plus ou moins, hein, pour aller à la pêche, pour ses loisirs, pour un tas de choses. Je pense que c'est important d'en dédier au moins un petit pourcentage au sein d'une APPMA, parce qu'on n'y a pas que du travail, il y a aussi des bons moments. C'est hyper enrichissant. C'est valorisant aussi, et puis je pense que c'est un devoir quelque part d'essayer d'apporter un petit peu sa touche, ses compétences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puisque plus on est nombreux et moins ça représente de travail, en sachant bien qu'il y a les difficultés, les contraintes de l'éloignement de certains
pêcheurs. C'est un peu comme les élections, on n'a pas le droit de se plaindre si on n'a pas allé voter.
C'est un peu ça.
Bon, tu couperas montage.
Oui, en tout cas, ça résonne sur l'implication. Je reviens à l'implication de chacun dans une association. Effectivement, prendre une carte, adhérer à des PPMA, idéalement, c'est pas seulement pour aller pêcher, c'est un peu plus que ça. Si on est citoyen et responsable, c'est donner aussi un petit peu de son temps à la mesure de ce qu'on peut donner. Mais chaque année, qui pour aller faire une pêche électrique, qui pour aller compter les poissons ou planter, comme disait tout à l'heure Jean, quelques saules ou d'autres choses dans la rivière, pour aider à l'encadrement des
je commence à m'essouffler, donc ça serait bien qu'il y ait
chacun à sa mesure et selon son plaisir,
du sang tout neuf qui revienne un petit peu, et des jeunes aussi qui prennent conscience.
Alors vous souhaitiez également faire un appel,
c'est un président, un trésorier aussi, une secrétaire aussi ou un secrétaire, donc tout ça joue pour la société, quoi.
Donc là, on parle du bureau, mais donc ça, c'est important, le renouvellement du bureau, bien évidemment, mais les bénévoles qui sont autour, qui soit font partie du conseil d'administration, soit tout bêtement sont bénévoles, ont aussi leur importance dans l'association. Fabien, un petit mot sur ce point ?
Oui, on a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints, donc ça, c'est très appréciable.
Dont Marcel et Gilles,
Et d'autres encore qui ne sont pas présents aujourd'hui, donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va perdre quelques membres qui occupent notamment le bureau, donc il va falloir réfléchir à la suite. On a aussi des demandes de rejoindre la PPMA, donc ça, c'est aussi tout à fait... appréciable. On est aussi très sollicité, donc il y a beaucoup d'actions à venir. On est sollicité sur le territoire, sur des projets dont on vous parlera peut-être plus tard, mais qui sont gratifiants, intéressants, et qui vont nécessiter un petit peu d'investissement bénévole encore. Donc vraiment, on invite quiconque du territoire d'ailleurs, des jeunes, des moins jeunes, à venir nous retrouver. Encore une fois, on n'a pas que du travail, on a aussi du bon temps.
Et on passe des gueuletons aussi. On n'en a pas parlé.
N'en parlait à personne, mais.
Donc, pas que du négatif, il y a du positif à venir, passer, et puis voilà.
Ça se fait dans une ambiance bon enfant, comme nous l'aurons compris. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse internet des pêcheurs du Hoguier ?
Oui, alors on a un tout nouveau site, tout neuf aussi, hein, pour essayer de rapprocher un petit peu le pêcheur de la vie de son APPMA, que vous trouverez sur internet, www.lespêcheursduhoguier.fr. Voilà, vous nous trouvez facilement sinon sur les grands moteurs de recherche en tapant APPMA du Guier. Voilà, vous y trouverez nos actions, une petite part d'actualité, le domaine en gestion, la réglementation qui est sans cesse actualisée, voilà, un tas de choses.
Venez, très bien.
Voilà, même un forum de discussion, voilà, si vous êtes intéressé, participez à des débats en interne, voilà.
C'est ouvert.
Et Fabien ne veut pas le dire, mais il est guide de pêche. Donc, et c'est lui qui s'occupe des écoles, qui s'occupe des enfants, qui fait tout, qui colle des affiches, qui rédige, qui essaye de nous manager et manager des vieux. Ce n'est pas évident. Hein. Alors, merci Fabien.
Merci, président. Merci.
Je confirme.
Alors, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure cette première émission, messieurs? Je vous propose de reprendre le micro chacun à votre tour et de lancer un message de fin. On commence par le président, Jean.
Bon, ben, je vais commencer. Je remercie beaucoup, de nous avoir écoutés, disons autrement dit, parce que c'est important quand même. Une radio qui va nous servir, disons autrement dit, pour tout passer, disons, enfin, des bonnes choses, quoi.
Radio Couleur Chartreuse est une radio locale, c'est naturel, Jean.
Voilà.
Fabien.
Oui, c'est important, on va remercier la radio, merci pour le temps de parole, merci de nous avoir laissé nous présenter aux habitants, aux pêcheurs. Je terminerai en disant que je vous souhaite de prendre autant de plaisir qu'on en prend à la pêche et dans le milieu naturel au bord des rivières. Voilà, parce que pour nous c'est vital et pas seulement que pour le pêcheur. Donc on aura le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission, j'espère, et toujours plus nombreux. À bientôt.
Marcel,
je dirais que le naturel coule pas de source. Donc merci à Radio Chartreuse. Et surtout, c'est une expérience très enrichissante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des connaissances au niveau de la pêche, au niveau de on se fait des amis. Ça, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui ont envie de vivre une expérience autre celle qu'ils vivent actuellement, de nous rejoindre, parce qu'ils seront les bienvenus et on en a besoin. Merci.
Et on finit par Gilles.
Bah déjà, merci de nous avoir invités à Radio Couleur Chartreuse. Merci à toi de nous avoir interviewés. C'est pas notre boulot, ça s'entend, ça se sent. J'espère que vous allez nous pardonner et que ça n'a pas été trop rasoir. Allez, bonne soirée à tous.
Merci à tous d'avoir participé à cette première émission. Et on se retrouve, comme promis, le premier samedi du mois de mars. Avec pas loin dans le collimateur l'ouverture de la pêche qui sera le 9 mars, hein, Fabien, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà, ça... on en reparlera lors
deuxième
de la prochaine émission.
Let it rain, let it pour, let it rain.